Place donc à la culture, la galerie du Rodolfinum propose jusqu'au 13 novembre une exposition intitulée « Controverse, une histoire légale et éthique de la photographie ». Cette exposition, née à Lausanne, en Suisse, au musée de l'Élysée, a déjà parcouru 6 pays depuis sa première édition en 2008. Rencontre aujourd'hui avec Christian Pirker, avocat à Genève et historien de l'art, mais aussi avec Daniel Girardin, conservateur au musée de l'Élysée, qui est revenu sur la genèse de l'exposition au micro d'Anna Kubishta.
Culture sans frontières.
Alors, l'idée au départ, étant donné la multiplication des procès dans le milieu de la photographie, notamment étant donné que je suis conservateur d'un musée de la photographie, j'ai été confronté depuis les années 80 à ces questions, nous avons essayé de comprendre avec Maître Pirker, qui est avocat, de comprendre où étaient les problèmes dans la photographie, comment ils ont été résolus, comment les lois se sont élaborées petit à petit. Donc nous avons commencé le projet en analysant quelques centaines de cas de photographie qui ont donné lieu à des procès. Et nous sommes très vite aperçus qu'une grande partie des photographies dites qui ont suscité une controverse n'ont pas forcément été devant un tribunal, mais ont fait l'objet d'un débat social, politique, à travers les journaux notamment, et que la question juridique ne résolvait qu'une petite partie de la complexité, si on veut, des problèmes de la représentation et des limites qui sont associées à la représentation, qui ne sont pas forcément légales. Je vous cite un exemple. Dans les années 70, un photographe qui s'appelait David Hamilton a publié des photographies de jeunes filles, les jeunes filles en fleurs, il a fait des films. C'est des photographies qui étaient publiées en poster à des millions d'exemplaires qu'on trouvait dans tous les journaux. Aujourd'hui, c'est un érotisme assez soft, je dirais, assez délicat, je dirais, rien de très choquant. Aujourd'hui, aucune de ces photographies ne peut être montrée et publiée parce que tous les modèles étaient mineurs, n'est-ce pas ? Donc là, on a un cas d'une photographie qui pouvait diffuser des millions d'exemplaires
et qui aujourd'hui
ne peut plus être présentée. Alors, c'est intéressant pour nous parce que les lois n'ont pas vraiment forcément changé, mais les lois deviennent applicables ou appliquées, ou elles se durcissent, ou on ne l'applique pas pendant quelques années en fonction, de l'état général d'une société, de la mentalité, de la culture qui existe.
Est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là justement que finalement une photographie peut avoir plusieurs vies selon la période à laquelle elle est exposée ou publiée ?
Absolument, et c'est le cas notamment de photographies qui sont prises sous des dictatures, des photographies qui étaient des photographies du corps ou de la sexualité qui sont faites dans des années de grande liberté sexuelle, début du XXe siècle ou dans les années 60 ou 70 par exemple, et qui aujourd'hui pose problème parce que nous sommes dans une société qui aujourd'hui, on dit politiquement correcte, et qui applique un certain nombre de critères qui n'étaient pas les mêmes dans les années 70. Donc notre idée de toute cette exposition était de comprendre à la fois quelles sont les lois qui s'appliquent aux photographies, et il y en a beaucoup, elles sont complexes, et puis de comprendre comment les photographies ont été perçues ou réprimées à des moments de la société. Et notre idée a été que ceux qui voient les expositions, réfléchissent à la photographie. Nous donnons les clés de lecture quand il y a des controverses, il y a deux points de vue, on les explique. Nous sommes neutres dans la question, de manière à ce que le public se fasse une opinion qu'on peut appeler une conviction, mais qui n'est pas une certitude, c'est-à-dire en voyant une image, dire c'est scandaleux, c'est exclu, on ne doit pas la montrer. Et derrière, il y a évidemment toute une réflexion sur le droit de la photographie, bien sûr, sur les droits d'auteur, sur l'appropriation d'une photographie dans l'art contemporain. C'est toute une réflexion qui est permanente, je dirais, mais c'est aussi une réflexion sur la représentation dans les sociétés. Et cette question, elle est millénaire, elle commence en Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ, elle traverse la fin de l'époque romaine, à travers la Renaissance. Et...
Donc les controverses ne sont pas nées avec la photographie, c'est né avec l'image et la représentation.
Exactement, c'est une question, il y a toujours une controverse autour de la représentation, en tous les cas pas forcément une controverse, mais en tous les cas une volonté de contrôler les images, de contrôler leur sens. Donc c'est une lecture, qu'on peut dire, très politique de la question de la représentation. Alors la photographie a concentré toutes les questions qui sont posées avant à une échelle évidemment immense.
J'aimerais m'attarder sur une photographie qui m'a étonnée. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi justement elle fait partie de cette exposition. C'est la photo du mime Jean-Gaspard de Bureau. Alors il se trouve qu'il est franco-tchèque donc d'origine. Donc c'est d'autant plus intéressant également puisque l'expo est à Prague. Pourquoi en fait cette photographie du mime de Bureau a été sujette à controverse ?
Alors c'est une des premières photographies qui a donné lieu à un procès qui a révélé beaucoup de choses. C'est un procès que Nadar aîné a fait à son frère Adrien Tournachon, donc les frères Tournachon. Début des années 50, le frère
du 19e siècle,
oui, de 1850, le frère aîné Nadar veut aider son petit frère et il l'introduit dans la photographie. Et le petit frère a beaucoup de succès. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'appeler Tournachon, il s'appelle Nadar Jeune. Et il capte la clientèle, la célébrité de son frère aîné. Donc le frère aîné fait un procès pour faire reconnaître son droit, non seulement sur les images qu'il fait, mais sur son statut de photographe. Alors ce premier procès révèle évidemment ce qui va devenir, 10 ans plus tard, fondamental de la photographie, c'est-à-dire le droit d'auteur et la reconnaissance que celui qui fait une photographie fait œuvre d'art et à ce titre-là, la reconnaissance de tous les droits intellectuels qu'a obtenu un musicien, un peintre ou un écrivain. Donc cette photographie de Nadar, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle est une des premières sur lequel, avec laquelle nous avons les minutes du procès et il y a un développement de toute la problématique par les avocats. Et c'était évidemment intéressant de voir quels sont les arguments qui sont déjà les mêmes que ceux qu'on défend aujourd'hui au début des années 1850.
Quand on pense à la photographie, aux controverses, aux interdits, on pense évidemment à la censure. Alors, d'une certaine façon, on pourrait se dire, ici, il y a plein de photographies, mais il y a sans doute aussi des photographies absentes. Est-ce que, finalement, il y a des photographies qu'on ne peut pas montrer dans le cadre d'une exposition telle que celle-ci ?
Bien sûr, il y a deux cas. Il y a des photographies pour lesquelles nous n'avons pas obtenu les droits parce que le photographe ou les ayants droit ont refusé. Il y a une dizaine de cas. Et puis, il y a évidemment des photographies qui soit tombent sous le coup de la loi aujourd'hui d'une décision du tribunal. Et la question est à double sens. Peut-on tout montrer ? On peut tout montrer, je dirais techniquement, diffuser. On peut pas tout montrer dans la mesure où il y a un certain nombre de lois qui interdisent un certain nombre de représentations dans telles conditions. Mais ce qui est intéressant et que nous avons voulu montrer avec cette exposition, c'est que la loi, elle ne dit pas « il est interdit de faire une photographie avec du bleu, mais le jour n'est permis », mais on interprète une image. Et un tribunal interprète une image dans un lieu donné, et 6 mois après, ou 1000 kilomètres plus loin, un autre tribunal peut interpréter une photographie dans un tout autre sens. Alors il y a beaucoup de cas ici dans l'exposition, de procès, où on voit que les premiers procès ont été perdus, ensuite ils sont gagnés en instance, n'est-ce pas ? Avec des arguments qui sont les mêmes et qui convainquent soit un jury, soit un tribunal. Donc la question est aussi que la représentation, elle est extrêmement complexe. Et il y a des choses qui sont très simples, mais sur le type de la, par rapport au droit d'auteur et encore, mais par rapport à la représentation elle-même, les choses sont nées et naissent d'une interprétation. Alors si vous êtes dans une société qui interprète la sexualité de manière extrêmement libre, eh bien logiquement et forcément, vous avez des jugements de tribunaux ou pas du tout de procès, n'est-ce pas ? Et si vous avez une société qui est plutôt répressive, eh bien vous avez immédiatement une censure. Et notre idée était de montrer qu'une photographie, elle fait l'objet d'une interprétation, que ce soit du public, de vous-même, de moi, ou d'un juge ou d'un procureur.
Christian Perquer, vous êtes avocat, vous êtes également historien de l'art. Comment est-ce que c'est né en fait cette participation à ce projet qui est un livre controverse et qui est également une exposition qui est aujourd'hui à Prague ?
Alors c'est avec Daniel Girardin, un ami, on était à l'époque pour une conférence sur la photographie et est né, on va dire, les balbutiements de ce projet qui était initialement de faire une exposition qu'avec des images qui ont fait l'objet de procès.
Est-ce que vous-même, dans votre pratique justement d'avocat, vous avez été confronté à cela ?
Oui, oui, j'ai été confronté ponctuellement à ça. C'est vraisemblablement une des raisons, une des petites graines de l'idée, probablement. Peut-être aussi celle de commencer une petite collection dans ce domaine. Donc voilà. Et puis après, on s'est rendu compte que les procès arrivent rarement à terme. Et de nombreux problèmes aussi ne sont pas forcément en lien avec un procès. Je pense à tous les problèmes éthiques de photojournalisme et autres. Et donc, nous avons décidé d'étendre la problématique à tout ce qui est éthique également et pas seulement juridique.
Alors, vous balayez une large période, hein, puisque vous commencez finalement au début, en gros, de la photographie au 19e siècle jusqu'à, disons, des photographies d'il y a quelques années.
Alors, effectivement, c'est l'idée était de présenter une histoire éthique et juridique de la photographie. C'est pour ça qu'on commence avec Hippolyte Bayard. Donc vraiment, c'est la naissance de la photographie jusque l'art vraiment très, très contemporain avec certaines controverses qui datent d'il y a à peine quelques années.
Est-ce que cette exposition controverse a été elle-même sujette à controverse ?
Pas à ma connaissance, parce que précisément, l'objectif n'est pas de faire une controverse, mais d'en présenter de manière la plus neutre possible pour que chaque personne puisse faire sa propre opinion sur les images.
Puisqu'on est ici dans un musée, hein, dans une galerie, est-ce que on peut dire qu'il existe des faux en photographie ? Est-ce que ça existe en fait ? Parce qu'on pense aux faux en peinture, mais est-ce que des faux existent en photo ?
Alors, je pense que le faux, par opposition au vrai, dans la photographie, doit s'interpréter selon plusieurs niveaux. C'est-à-dire, d'abord, il y a le faux au niveau, on va dire, du message véhiculé. On peut penser à de la propagande, on peut penser à, on va dire, ce qu'on appelle des mises en scène. Donc, dans le message serait faux. Ensuite, après, il y a le faux au niveau, on va dire, on commence à travailler le médium, c'est-à-dire tout ce qui est retouché, toutes les mises en scène, les photomontages, etc. Et puis, le troisième type de faux, c'est le faux au niveau, par exemple, ce n'est pas une œuvre autographe, si on peut appeler ça comme ça, ce n'est pas la bonne signature. Et même dans ce cadre-là, il y a une variété de faux potentiellement possibles, parce que on peut imaginer une photo d'un tiers qu'on attribue faussement. Mais après, on peut aussi imaginer que c'est un tirage moderne fait avec le négatif fait de la main de l'auteur, mais juridiquement, cela peut être aussi considéré comme un faux, parce que ça n'a pas été fait par l'auteur ou approuvé par lui. Mais on se rend compte que la conception du faux est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça en a l'air.